Mon nom est Monique Vincent. Bienvenue au Petit carnet de l'aidant, une série de 12 balados rendus possibles grâce à l'ASF Lanaudière et au soutien financier de l'Appui pour proches aidants. Dans les pages de notre Petit carnet, nous abordons différents sujets concernant les impacts financiers et fiscaux reliés à la situation des proches aidants. Nous vous offrons également un aperçu des documents légaux qui pourraient leur être utiles. Pour nous renseigner, Mme Guylaine Fauteux, conseillère budgétaire à l'ASF Lanaudière. Bonjour, Guylaine.
Bonjour, Monique.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Apprendre qu'un être cher est atteint d'une maladie dégénérative, de le voir perdre petit à petit ses capacités physiques ou cognitives, bouleverse, et le sentiment d'impuissance peut être difficile à gérer. Guylaine, il y a une nouvelle loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Et cette nouvelle loi offre de meilleurs outils aux proches aidants et protège mieux les personnes vulnérables.
En effet, Monique, le but visé par la loi, qui entrera en vigueur en juin 2022, est d'améliorer la protection offerte aux personnes en situation de vulnérabilité. Donc, l'objectif est de valoriser au maximum l'autonomie de ces personnes en tenant compte de leur volonté, de leurs préférences, tout en leur permettant, dans la mesure du possible, aussi d'exercer leurs droits.
Mais quelles sont les nouveautés apportées par ces changements à la loi?
Le curateur public a prévu un dispositif de protection plus simple et mieux adapté aussi aux besoins et à la situation de la personne vulnérable. Donc, le nouveau dispositif tient compte du degré d'incapacité ou d'inaptitude de chacune des personnes.
Mais concrètement, Guylaine, qu'est-ce que le dispositif de protection?
OK. C'est un ensemble de mesures de protection prévues par la loi. Donc, on parle de la mesure d'assistance, de la représentation temporaire, de la tutelle et finalement du mandat de protection.
Mais chaque mesure ayant un degré de protection différent, j'imagine.
Exactement, c'est ça. On va commencer par la mesure d'assistance qui est destinée aux personnes qui vivent une difficulté, et c'est pas important laquelle difficulté ils vivent, là, qui désirent de l'aide et qui sont capables de choisir leur assistant. Cette mesure vient officialiser auprès des tiers. Les tiers, ce sont des entreprises, des professionnels, des organisations. Donc, la mesure officialise le rôle d'intermédiaire de l'assistant, de la personne qui est en situation de vulnérabilité et qui souhaite être accompagnée par un proche pour sa prise de décision ou l'exercice de ses droits. C'est comme un passeport universel. Donc, la mesure prévoit aussi l'inscription du nom des personnes assistantes dans un registre public que les tiers pourront consulter. Donc, par exemple, au lieu de rencontrer un à un les tiers et de devoir à chaque fois signer une autorisation pour me permettre d'accompagner ma mère à ses rendez-vous avec le médecin, avec le comptable, le notaire ou dans un bureau du gouvernement, je pourrais faire une seule demande d'assistance auprès du curateur public.
Ah, ça peut devenir moins lourd à ce moment-là de cette façon-là.
Exactement.
Et qui peut être nommé assistant?
Toute personne désirant assister une autre personne le peut et doit, pour ce faire, être majeur ou pleinement émancipé, être pleinement capable d'exercer ses droits civils et démontrer un intérêt particulier pour la personne qui souhaite assister.
Mais évidemment.
Ça ne peut pas être n'importe qui.
Non. Et qui doit faire la demande pour être assistant?
Bon, brièvement, le processus de nomination d'un assistant se fait en trois étapes. Pour la première, c'est la demande qui peut se faire en ligne ou par courrier postal au curateur public. C'est la personne qui souhaite être aidée qui fait la demande, avec l'aide de son futur assistant, par exemple. Suite à la réception de la demande, le curateur public, lui, va s'assurer de la conformité de la demande. Il va aussi vérifier les antécédents judiciaires de l'assistant proposé. Il va notifier la demande à au moins deux proches de la personne qui souhaite assister. Il va traiter les avis d'opposition des proches, le cas échéant, et réserver une plage horaire pour la deuxième étape.
Il y a quand même plusieurs points à respecter là-dessus, oui.
Donc là, on est rendu à la deuxième étape. Le curateur public va rencontrer les personnes concernées pour s'assurer que la personne qui souhaite de l'aide comprend bien la portée de la mesure et qu'elle est capable d'exprimer ses volontés et préférences. Donc, chacune des parties doit être au fait de son rôle et de ses responsabilités. Enfin, vient la troisième étape où le curateur public va analyser le dossier et prendre une décision. C'est alors que le nom de l'assistant sera enregistré au registre, seulement si la réponse à la demande est positive.
Exactement. Et est-ce qu'il y a une durée prévue à la mesure d'assistance?
Oui. La mesure d'assistance sera valide pour une durée maximale de 3 ans, au terme duquel une nouvelle demande devra être déposée aux besoins.
Donc, repartir avec tout le processus.
C'est ça. Il est important de préciser, Monique, qu'en tout temps, la personne assistée pourra mettre fin à la reconnaissance de son assistant en s'adressant au curateur public. De son côté, le curateur public pourra aussi mettre fin à la reconnaissance de l'assistant, mais la personne assistée pourra contester cette décision au tribunal.
Et concernant le dispositif de protection, vous avez parlé de 4 mesures. Vous venez de nous décrire la mesure d'assistance, ça c'est bien clair. Mais dites-moi dans ce cas, qu'est-ce qui distingue la mesure d'assistance de la représentation temporaire?
OK. La mesure d'assistance est là pour assister. Assister, c'est le mot-clé. Donc, assister la personne en difficulté cognitive ou physique légère à mieux comprendre et à mieux communiquer. Donc, l'assistant n'agit aucunement au nom de la personne assistée. Il est là pour l'accompagner et l'aider.
Ah, c'est bon à savoir, ça. C'est important.
La représentation temporaire est là pour représenter, encore une fois, représenter le mot-clé, représenter la personne qui n'a pas toutes les aptitudes requises pour l'exécution d'un acte précis et ce, pour une période limitée. Donc, le représentant temporaire agit temporairement au nom de la personne inapte.
Donc, si je comprends bien, la mesure d'assistance et la représentation temporaire sont de mise lorsqu'une personne n'est pas complètement inapte.
Vous avez très bien compris.
Qu'advient-il d'une personne qui deviendrait inapte soudainement, là, victime d'un accident, par exemple, et aurait besoin d'aide?
Alors là, Monique, vous me devancez, car c'est le sujet de la prochaine page du carnet de l'aidant.
Ah, ben là! Vous me faites languir! Ben, de toute façon, d'ici là, pour plus de détails au sujet des 2 premières mesures, je peux toujours consulter le site du curateur public?
Absolument!
Alors, comme vient de nous le dire Guylaine, dans la prochaine page de notre petit carnet de l'aidant, nous poursuivons avec les mesures de protection du curateur public pour, cette fois-ci, la protection des personnes inaptes avec la tutelle modulable et le mandat de protection. Mon nom est Monique Vincent, et comme l'a dit un jour le poète américain John A. Holmes, il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Revenez-nous donc dans une prochaine balado pour la suite. À très bientôt!